Le journal Sarah Guibaudeau. Bonjour Sarah.
Bonjour. C'est donc à Paris que se tiendront les Jeux Olympiques de 2024. Los Angeles a décidé de s'incliner et de se consacrer aux Jeux de 2028. Nous sommes le 1er août. Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent. Le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure est au cœur d'une nouvelle polémique. Cette fois, ce sont les archéologues qui contestent. Nous l'entendrons dans ce journal aussi. Coup de projecteur sur les Philippines, nouvelle terre de combat pour les djihadistes. Le débat sur la reproduction des orques et des dauphins en captivité devant le Conseil d'État. Les hommages se multiplient après la mort de Jeanne Moreau, immense actrice et surtout une femme libre, nous dira Jean-Pierre Mocky. Enfin, une expo de photos à Paris pour découvrir Ed van der Elsken. À 8h20, Pierre, votre invité, Patrick Boucheron, qui nous présente Un été avec Machiavel.
Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France, et son dernier livre, Un été avec Machiavel. Avec Machiavel, ce sont les chroniques que vous avez pu entendre l'été dernier dans le 6-9 de France Inter. Machiavel, ses écritures, sa philosophie et son actualité. On en parle avec Patrick Boucheron à 8h20 et vous pourrez l'interroger dans Interactive 01 45 24 7000 à partir de 9h-20.
France Inter. Ce ne sera officiel qu'en septembre avec le vote du Comité international olympique. Mais pour Paris 2024, les Jeux sont faits. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui a eu Emmanuel Macron au téléphone ce week-end, paraît-il, a annoncé hier qu'il avait conclu un accord avec le CIO pour 2028, avec à la clé une aide financière plus importante. Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonjour.
Cet accord semble donc satisfaire tout le monde.
Un accord que l'on pressentait, surtout depuis que la possibilité d'une double attribution des Jeux a fait son chemin. Le président du CIO, Thomas Barr, avait lui-même défendu cette possibilité inédite, validée il y a 3 semaines par le CIO. La condition, un accord entre Paris et Los Angeles, mais aussi entre le CIO et la ville américaine, ce qui a donc été annoncé cette nuit. L'annonce officielle, vous l'avez dit, interviendra le 13 septembre à Lima. On se demande donc à quoi va servir ce grand rendez-vous programmé par le CIO. La réponse de l'ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour, double champion olympique de sabre.
Je pense qu'il faut quand même une certaine formalité pour le CIO. Le CIO vient de changer radicalement ses règles. Et puis, ce congrès de Lima, c'est aussi pour le CIO le moyen de dire qu'ils vont préparer les prochaines échéances, en particulier les Jeux de 2032. La problématique aujourd'hui, c'est le manque de villes candidates.
Alors bien sûr, le sport français accueille cette nouvelle avec enthousiasme. L'équipe de France de basket, par exemple, réunie à l'INSEP pour préparer le prochain Euro, fait partie des sportifs évidemment, qui accueille cette nouvelle avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et notamment, le président de la fédération, Jean-Pierre Ciuta, a rappelé que les JO à Paris auront des conséquences concrètes pour l'ensemble du sport tricolore.
Derrière, ça permettra aux fédérations, aux comités olympiques de travailler dans la durée et de proposer d'autres types de pratiques. Voilà. La deuxième chose, ça permet, sur le plan des équipes nationales et du haut niveau, de préparer tranquillement cette échéance, créer d'ores et déjà des projets 2024, puis de considérer que 2020 sera, monté si on peut se qualifier pour 2024.
Alors qu'on ne s'y trompe pas, Sarah, c'est surtout l'accord financier conclu entre le CIO et Los Angeles qui a fait pencher la balance. On parle d'une contribution d'1,8 milliard de dollars, sans compter les retombées marketing qui pourront être exploités plus tôt que prévu. En matière de JO, l'argent fait aussi le bonheur.
Merci Jean-Pierre Blimeau. Ça y est, la SNCF a trouvé la panne qui affecte depuis ce week-end le trafic des TGV entre Paris et le Grand Ouest. Une cinquantaine de techniciens ont passé la nuit sur le centre de commande d'aiguillage de Vanves au sud de Paris. La bonne nouvelle, c'est que la panne va donc pouvoir être réparée, mais plutôt pour demain. La mauvaise, c'est que pour ce matin, le trafic des TGV reste très perturbé, surtout au départ de la gare Montparnasse. Le prix de l'électricité augmente aujourd'hui pour 27 millions de Français. La hausse est de 1,7% pour ceux qui ont gardé les tarifs réglementés malgré la libéralisation du marché il y a 10 ans. Dans le collimateur de Bruxelles, ces tarifs réglementés sont de toute façon en sursis, Laurent Kramer.
EDF espère échapper ou repousser au plus tard possible la fin de ces tarifs réglementés. Dans un avis rendu vendredi dernier, le Conseil d'État estime que, contrairement au gaz, l'électricité est un bien de première nécessité. S'il est possible de se passer du gaz, il est impossible de ne pas être abonné à l'électricité. Cet avis protège donc très clairement EDF, estime son PDG Jean-Bernard Lévy, mais le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, souligne au contraire que cette décision ouvre une une brèche supplémentaire sur la fin des tarifs réglementés en place en France depuis plus de 70 ans. La France ne pourra pas continuer à déroger éternellement aux injonctions de Bruxelles. Nicolas Hulot préconise donc un atterrissage en douceur. Le compte à rebours semble déjà enclenché. Une quatrième directive énergie de la Commission européenne prévoit la suppression totale des tarifs réglementés d'ici la fin de l'année pour une mise en application transcrite dans les lois de chaque pays de l'Union dès 2019.
À Bure, dans la Meuse, le futur site d'enfouissement des déchets nucléaires fait face à une nouvelle contestation, celle des archéologues qui préconisent une fouille complète avant les travaux. Les premières explorations ont mis au jour un grand site néolithique, mais le préfet de la région Grand Ouest préfère se contenter d'une fouille partielle. Ce n'est pas dans leurs habitudes, mais des scientifiques ont lancé une pétition, Thierry Collin.
L'urgence des travaux de l'ANDRA peut-elle justifier la décision de l'État de ne fouiller qu'une partie du site de Bure, un enclos de 35 hectares qualifié d'exceptionnel par les archéologues? Une fouille intégrale permettrait de mieux connaître le mode de vie des paysans du 4e millénaire, une enceinte du néolithique qui intéresse François Gilligny, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris.
Nous, on a un programme de recherche qui inclut l'étude de ce genre de site à l'échelle nationale, même internationale. C'est un genre de site qui nous intéresse au titre de la recherche et pas seulement au titre de l'archéologie préventive.
Un site exceptionnel à double titre pour Christophe Lerelu, archéologue à l'INRAP à Reims, qui n'a pas l'habitude de lancer des pétitions.
C'est un site exceptionnel, c'est la plus grande enceinte du bassin parisien, une enceinte qui fait 35 hectares, auparavant totalement inconnue, et qui plus est dans un environnement relativement inattendu à l'écart des grandes rivières. On a en fait une double surprise avec un très grand monument, avec une situation vraiment particulière, spécifique. On a effectivement l'occasion unique de fouiller l'intégralité de l'espace interne d'une très grande enceinte, ce qui n'a jamais été fait auparavant.
Les scientifiques demandent l'intervention du ministère de la Culture. La fouille de l'ensemble du site ne retarderait les travaux de l'ANDRA à Bure que de quelques mois, selon les archéologues.
La Direction régionale des affaires culturelles précise qu'une fouille complète peut encore être décidée en fonction des découvertes à venir.
8h07, le journal Sarah Guibaudot. Sarah, le président du Venezuela fait mine de se moquer des sanctions américaines.
Les avoirs de Nicolas Maduro sont désormais gelés par Washington, qui le qualifie de dictateur. L'une de ses premières victimes pourrait bien être maintenant la procureure générale Luisa Ortega, ancien soutien d'Hugo Chavez, passé dans l'opposition, et qui a appelé hier à refuser de reconnaître le résultat des élections de dimanche. Au Sénégal, la coalition du président Macky Sall revendique une large victoire aux élections législatives. Le résultat est contesté par l'opposition, notamment la coalition du maire de Dakar, Khalifa Sall, aucun lien de parenté, qui est par ailleurs accusé de corruption et emprisonné depuis mars. C'est une autre terre de combat pour le groupe État islamique. Plus loin pour nous que la Syrie ou la Libye, les Philippines sont aux prises avec les djihadistes sur l'île de Mindanao. La guerre a fait 630 morts depuis la prise de la ville de Marawi par l'organisation terroriste le 23 mai. De quoi redouter que les djihadistes en déroutant en Syrie et en Irak n'en fassent une nouvelle base, Géraldine Allot.
Marawi est devenue une ville fantôme, vidée de ses 200 000 habitants. Il ne reste aujourd'hui que 500 civils piégés dans les décombres, souvent otages des combattants du groupe État islamique. Marawi ressemble à Mossoul, dit Thibault Henry. C'est le responsable de l'ONG Acted aux Philippines. Il revient d'un long séjour sur l'île de Mindanao.
Aujourd'hui, Marawi a été complètement ravagé, avec des rues et des buildings complètement détruits, avec des quartiers complètement ravagés. Faut savoir que l'armée pilonne avec des frappes aériennes la ville de Marawi depuis 3 mois quasiment maintenant.
Depuis le mois de mai, la guerre entre l'armée philippine et les djihadistes de l'État islamique a fait 630 morts et provoqué l'exode de 500 000 personnes, des déplacés qui survivent dans des conditions particulièrement difficiles.
On s'est rendu compte dans un centre d'évacuation qu'il y avait qu'une seule toilette pour 300 familles, avec plusieurs cas de choléra qui ont été décelés et un début d'épidémie de diarrhée qui se propage au niveau de la zone.
À Marawi, il ne reste plus qu'une petite centaine de combattants du groupe État islamique encerclés et assiégés par l'armée philippine. Plus que l'issue des combats, ce qui inquiète les autorités, c'est le nombre d'étrangers candidats au djihad qui affluent sur l'île de Mindanao, comme si après l'Irak et la Syrie, les Philippines étaient leur nouvelle terre de mission.
En France, des avocats appellent à une réflexion de fond sur la justice antiterroriste. Ce sont les 12 secrétaires de la conférence du barreau de Paris, 12 avocats qui sont commis d'office dans ces dossiers. La justice est-elle en train de fabriquer des bombes à retardement? Face aux attentats, elle prend en tout cas beaucoup de monde dans ses filets, sans faire de distinguo, estime en tout cas maître Gabriel Duménil.
Derrière cette association de malfaiteurs terroristes, ça peut être quelqu'un qui envoie un mandat à son frère qui est parti sur zone, en zone irako-syrienne, qui peut lui envoyer 10 euros de mandat. Ça peut être quelqu'un qui a des velléités de partir sur zone pour rejoindre l'État islamique ou Jabal Nosra, ou ça peut être quelqu'un qui a combattu pendant un certain nombre de temps dans ces zones de combat. Donc on regroupe sous cette qualification juridique des réalités de dossiers et des personnes qui n'ont rien à voir. Et c'est tout le problème. Donc on appelle de nos voeux à une réflexion approfondie, parce que le problème, c'est qu'à chaque attentat, on a une annonce politique et on a éventuellement une loi ou un certain nombre de dispositions qui viennent essayer de pallier les carences. Le problème, c'est qu'on n'a pas véritablement de réflexion de fond et on a, au coup par coup, des réactions politiques et judiciaires, mais qui ne peuvent pas permettre d'avoir un traitement efficace et surtout à long terme de ces dossiers.
Propos recueillis par Charlotte Piret, la tribune des avocats est à retrouver dans le journal Le Monde. Le sexagénaire qui avait frappé dimanche la députée de La République En Marche, Lauriane Rossi, sur le marché de Bagneux, a été condamné hier à 6 mois d'emprisonnement, dont 1 mois ferme. Il a été incarcéré.
8h11, Sarah Guibaudot, les spectacles de dauphins et d'orques mis en cause.
Oui, ils sont très prisés des familles, mais très critiqués par les défenseurs des animaux. Et ils sont condamnés à terme à disparaître après un arrêté signé en mai, qui interdit la reproduction des cétacés en captivité. 3 parcs de loisirs ont saisi la justice administrative. Le Marineland d'Antibes, la Planète Sauvage en Loire-Atlantique et le parc Astérix près de Paris. Ils utilisent eux aussi l'argument du bien-être animal, Valentin Dunat.
Il en va du bien-être des dauphins, de leur vie sociale. Pour Marineland, on ne peut pas interdire leur reproduction. Pour cela, il faudrait séparer les mâles et les femelles, interdire les relations sexuelles ou encore utiliser des méthodes contraceptives. Et pour le premier parc d'attractions marins d'Europe, cela constitue un traitement cruel. Les associations de défense des animaux répondent que les cétacés pourront toujours s'adonner aux joies de la sexualité. Concernant les médicaments, Mounir Bragdi du collectif Sans Voix PACA précise ceci.
En fait, ils disent que les orques, ils seraient obligés de les séparer, de leur donner certains médicaments type contraceptifs et autres anxiolytiques. Mais le problème, c'est qu'en fait, ces médicaments, ils leur donnent déjà à travers des seringues directement dans la bouche ou par le poisson qu'ils leur donnent.
Marineland attend désormais la réponse du Conseil d'État décisive quant à son avenir économique. Voilà ce que disait son directeur Pascal Picot en juin dernier sur une éventuelle fin des spectacles marins.
Alors, Marineland sans les orques, sans les dauphins, ça perd un peu de son sens, c'est évident. Mais aujourd'hui, on a de jeunes dauphins. On a un dauphin qui a 3 ans, on a des dauphins qui ont 6 ans, qui ont 7 ans. Donc ça nous laisse de nombreuses années pour nous organiser et voir ce qu'on va faire en fonction de l'évolution des arrêtés ou des éventuelles lois.
Il y a plus d'un an, aux États-Unis, le géant américain SeaWorld avait choisi une toute autre stratégie en décidant de lui-même d'arrêter la reproduction des orques en captivité.
Le Conseil d'État doit rendre cet après-midi une première décision en urgence. Il se prononcera sur le fond à la rentrée. Jeanne Moreau, c'était une star de cinéma mondial, identifiée par sa voix rauque. La comédienne mortière à 89 ans fut aussi un modèle de femme indépendante, mise à la porte par son père quand elle décide de faire du théâtre. Elle quittera la Comédie française pour l'aventure du théâtre populaire de Jean Villard en 1947 et deviendra dans les années 60 l'icône de la nouvelle vague. Elle a joué pour les plus grands, Antonioni, Orson Welles, l'anglais était la langue de sa mère. En France, François Truffaut, Louis Malle, Bertrand Blier et Jean-Pierre Mocky, qui voient en elle la star la plus moderne peut-être de sa génération.
C'était une femme libre. Elle a ouvert le chemin à toutes les femmes d'aujourd'hui. Et elle a eu une vie extraordinaire. On peut dire qu'elle a eu 7 vies. Hein. Et même sur le plan artistique, si vous voulez, elle a fait des films très mauvais, elle a fait des très beaux films, elle a travaillé avec Orson Welles, elle a travaillé avec Luis Buñuel, elle a travaillé avec tous ces grands réalisateurs étrangers. Et alors elle était une féministe dans le sens que elle a été en quelque sorte plus un exemple que Bardot, que des gens comme ça, parce qu'elle était plus proche du public. C'était pas une vampe comme on a fait de Bardot, c'était pas sex symbole, c'était comme si quelqu'un du public était devenu star.
Jean-Pierre Mocky avec Jacqueline Pétrose. Le cinéma a aussi perdu hier l'acteur, écrivain et scénariste Sam Shepard. Il avait 73 ans. De ses rôles, on retiendra notamment L'étoffe des héros et Les moissons du ciel pour les scénarios Zabriskie Point d'Antonioni ou Paris, Texas de Wim Wenders. Côté People, il fut le compagnon de Patti Smith et de Jessica Lange. Si le nom du photographe N. van der Elsken ne vous dit encore rien, le Jeu de Paume à Paris vous propose une rétrospective pour découvrir cet artiste hollandais qui, des années 50 aux années 80, a voulu saisir l'image d'une certaine jeunesse en marge aux quatre coins du monde, Isabelle Pasquier.
C'est la jeunesse rebelle, la vie folle, la vie libre que veut saisir Ed van der Elsken. Dans les années 50, il s'intéresse aux gens qui lui ressemblent, des marginaux, des clochards célestes. Il dérive dans le village existentialiste de Saint-Germain-des-Prés, le jazz, les filles avec leurs choucroutes laquées sur la tête. Dans la rue, il capte les corps, amoureux, paumés. Et surtout, pas de distance avec ceux qu'il photographie. Ève Le Pen est conférencière au Jeu de Paume.
C'est quelqu'un qui n'est pas complètement neutre dans l'image qu'il produit. Il ne recherche pas la distance, mais au contraire, la relation, le moment où la personne va se rendre compte qu'elle est prise en photo et qu'est-ce que ça va produire comme nouvelle image que cette rencontre de regard ou cette rencontre physique qui se produit dans l'espace public.
Dans les années 60, Ed van der Elsken est devenu un hippie, mais pas vraiment peace and love.
Chez moi, je filme ma femme, mes enfants, mes amis. Mais ça me plairait de filmer des jeunes voyous en rébellion qui font sauter une bande de capitalistes corrompus.
Ed van der Elsken a documenté la jeunesse en marge d'Amsterdam à Tokyo, en passant par Paris. Certains de ses clichés sont devenus iconiques.
Au box-office américain, c'est le film Dunkerque de Christopher Nolan qui cartonne. Valérian de Luc Besson fait plutôt un flop, 8e pour sa deuxième semaine. Pas très encourageant pour le film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Sur le marché américain, en tout cas, on attend les chiffres pour la France.
C'était le journal de Sarah Guibaudot.